Bonsoir, jour d'éclipse aux États-Unis. En tout cas, il y en a un qu'on va continuer d'entendre, hein, de voir même. D'ailleurs, s'est-il arrêté une fois cet été? Et pourtant, il fait sa rentrée aujourd'hui. C'est Donald Trump, le président américain, toujours au cœur de la polémique cet été, après des provocations, des déclarations choc. Hein, Donald Trump qui apparaît de plus en plus isolé au sein de son propre camp, le camp républicain, au point que les milieux d'affaires, eh bien, s'interrogent. La bourse également se pose des questions. Est-ce qu'il va pouvoir mener, faire ses réformes? Alors, Trump inquiète-t-il Wall Street? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ah oui, c'est la rentrée des décodeurs de l'écho en direct sur BFM Business. Très heureux de vous retrouver évidemment pour cette sixième saison avec l'actualité toujours qui nous motive, hein, bien entendu. Oui, Trump évidemment au cœur de la polémique, on va en parler ce soir avec Bertrand Badie, professeur de relations internationales à Sciences Po Paris. L'économiste Philippe Vechter, directeur de la recherche économique chez Natixis AM Asset Management. Julien Marcy, économiste, lui aussi donc chef économiste chez l'assureur Crédit Coface, et puis le journaliste américain Eduardo Cue. Je disais, là, est-ce que Trump inquiète Wall Street? En tout cas, on voit le Dow Jones, le Nasdaq, une nouvelle fois à la baisse, hein, comme on le voit d'ailleurs depuis deux semaines. Le Dow Jones, qui est repassé légèrement dans le vert, là, au moment où on se parlait, voilà. Enfin, qui avait démarré dans le rouge, et puis le Nasdaq, lui aussi, légèrement dans le rouge. Donc, ce lundi soir, la clôture tout à l'heure, évidemment, en direct à 22h. On va partir justement aux États-Unis. Retrouver donc à New York Cédric Fesch pour BFM Business. Une rentrée un peu particulière quand même pour Donald Trump, donc aujourd'hui, qui retrouve la Maison-Blanche, Cédric.
On peut même dire une rentrée délicate parce que sa semaine de vacances, la semaine dernière, a été celle pendant laquelle il a été le plus critiqué, plus même que lors de l'instauration du premier décret anti-migrants en janvier. Parce qu'après les événements racistes à Charlottesville, il a d'abord été lâché par plusieurs grands patrons qui participaient à des groupes de conseil du président. Ils n'ont pas supporté que Donald Trump soit aussi indulgent avec les manifestations de néo-nazis et de suprémacistes blancs. Il y a eu tant de défections que Donald Trump s'est résolu à dissoudre lui-même ses groupes de patrons. Le problème de la rentrée pour Donald Trump, c'est qu'il n'a toujours pas mis en œuvre ses principales promesses de campagne. Toutes ne plaisent pas aux patrons, comme le décret anti-immigration qui limite leur capacité à recruter des talents. En revanche, il y a une mesure qu'ils attendent impatiemment, c'est la baisse massive des impôts pour les entreprises et les particuliers, et puis aussi la simplification des réglementations. A priori, ce sont des mesures auxquelles tient Donald Trump, mais la confiance des marchés est ébranlée parce qu'ils savent que Donald Trump est très occupé par ailleurs. L'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle, les polémiques à répétition, tout cela repousse les réformes à plus tard.
On va vous retrouver, Cédric Fesch, bien sûr, toujours depuis New York. Oui, quelle accumulation quand même, Bertrand Badie, quel été quand même, parce que bon, en effet, il y a l'ambiguïté des condamnations après les manifestations racistes de Charlottesville. On aurait pu rajouter Trump qui élève le ton sur vis-à-vis de la Corée du Nord, qui leur promet le feu, la colère, le limogeage de deux de ses principaux conseillers, Anthony Scaramucci, le directeur de la communication, Steve Bannon, on y reviendra rapidement. L'été de toutes les provocations.
Tout ce qui ne plaît pas, en fait tout ce qui ne plaît pas, et notamment au marché financier, puisque vous commenciez là-dessus, se trouve réuni dans cette présidence qui est quand même tout à fait exceptionnelle. D'abord un problème gigantesque de gouvernance. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on apprenne qu'un responsable important à la Maison-Blanche ou dans le staff gouvernemental a été limogé, tout dernier étant Steve Bannon. Ça, généralement, cette instabilité ne plaît pas. Deuxième élément, que l'on ne souligne peut-être pas assez, c'est-à-dire la première fois aux États-Unis qu'un président est élu hors de la logique bipartisane. Bien entendu, il avait l'investiture du Parti républicain, mais ce n'est pas un homme de la machine républicaine. Et on voit à quel point l'une des contestations peut-être les plus dangereuses peut venir de l'intérieur même du Parti républicain, sachant que pour l'instant, les responsables républicains sont relativement calmes parce que l'électorat républicain continue à soutenir Trump, faut pas oublier ça non plus, mais effectivement, il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de Trump, qui va découvrir ce que c'est que d'être président sans sortir véritablement d'un parti. Troisième élément, les slogans sur lesquels Trump s'est appuyé sont des slogans qui ne passent plus dans un monde mondialisé. Nationalisme, protestation de toute nature. Et quatrièmement, peut-être c'est le plus important dans mon esprit, on voit pour la première fois à la Maison-Blanche, non pas le leader potentiel du monde, mais le protestataire potentiel du monde. C'est-à-dire que les États-Unis ont de plus en plus de mal à assurer leur leadership sur le monde. C'est un phénomène qui a déjà été noté dès la présidence Bush, mais cette fois-ci, un cran supplémentaire est passé. C'est pas une question de déclin américain. Les États-Unis restent une puissance de bien des points de vue, mais c'est une question de mondialisation. Nous sommes dans un contexte où le leader ne peut plus s'accomplir, ne peut plus être obéi, où le monde n'est plus structuré comme il l'était autrefois. Résultat, le leader se transforme en protestataire. Il y a quelquefois dans la bouche de Trump des choses que l'on entendait autrefois dans la bouche des leaders du tiers-monde, protestataires et déviants des années 70, et qui vont d'expression idéologique comme à l'occasion de l'affaire de Charlottesville tout à fait excessive à des formes de néo-nationalistes qui peuvent étonner dans une superpuissance qui n'a pas à se rassurer sur la puissance de ce qu'elle représente. Alors tout ceci fait que nous nous trouvons peut-être à l'aube d'un nouveau monde où le leadership est un phénomène qui est de plus en plus difficile à penser, tant qu'il y aura une intelligentsia, des médias et aussi des chefs d'État étrangers qui concevront les États-Unis comme étant l'hégémone, ce fameux hégémone qui règle la circulation mondiale, eh bien, cette vision sera en complète distorsion avec l'évolution de la réalité du pouvoir et de la puissance américaine. Et du coup, frustré dans ses résultats, cette puissance américaine, comble du paradoxe, se fait plus protestataire qu'elle ne se fait réglementaire. Voilà, on en est là. C'est pas de beau jour, ni pour la planète, ni pour les États-Unis.
On va voir justement comment il va pouvoir mener ses réformes. Eduardo Cuel, on vient d'écouter Bertrand Badi donc de Sciences Po Paris, vous êtes chroniqueur international. Les débordements de Trump, ça exaspère de plus en plus, et notamment peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est Charlottesville, les suprémacistes blancs mis sur le même niveau que les antiracistes il y a 10 jours.
Oui, je pense que cet été, Donald Trump a perdu le leadership moral. Et son leadership moral, et donc sa présidence est vraiment, vraiment en danger. Vous savez, à ce qui concerne les entreprises qui ont plutôt soutenu Trump en grande raison pour la promesse de la réforme fiscale, mais ces entreprises sont formées des syndicats, des salariés, des consommateurs. Et donc, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles tous ces leaders ont quitté les instances qui avaient été créées.
Voilà, sur la pédale de Trump, justement. Voilà.
Dans quelques cas, très durement critiqué la position de Trump, qui est tout à fait incompréhensible, ce qu'il a fait cet été. Et donc, c'est une présidence en très grand danger.
Ouais. Philippe Vechter, ces débordements, ces provocations, ça exaspère de plus en plus les milieux d'affaires. Et c'est vrai, que de changements depuis le mois de janvier, quand les milieux économiques soutenaient finalement Trump dans ses volontés de réforme, de baisser les impôts, de faire ce programme de 1000 milliards d'infrastructures, de renégocier les accords commerciaux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à la Bourse de New York, justement, où on voit depuis 2 semaines la baisse qui continue après des records début août
Avant d'évoquer cela, le principal point, c'est que Trump est là depuis la mi-janvier. Et il n'y a toujours pas de politique économique aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en début d'année, il y avait l'idée qu'il allait se passer des choses. Tout le monde était un peu sceptique sur les 1000 milliards de dépenses en infrastructures, parce qu'on ne savait pas très bien comment elles seraient financées. Mais il y avait l'idée qu'il y allait avoir probablement des baisses d'impôts. Et tout ceci ne fonctionne pas. Ça, c'est quelque chose de terrible. On est dans une économie américaine qui est un peu à bout de souffle, qui manque d'impulsion. Et on espérait, le marché américain espérait que la politique économique allait doper un petit peu cette économie. Et on ne voit pas aujourd'hui d'éléments. On a vu toutes les expériences autour de d'Obamacare et la façon dont ça a été refusé par le Congrès.
Bien sûr. Le Congrès et la majorité républicaine.
Oui,
voilà,
absolument.
Ce que disait Bertrand Badie tout de
absolument.
Suite.
Absolument.
La menace vient du camp républicain.
Et de ce fait-là, se pose la question de comment financer les baisses d'impôts. Mm-hmm. Et donc, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a une vraie problématique qui est posée. Moi, ce que je trouve, quand on regarde Trump, il y a des choses intéressantes. C'est que moi, il me semble que les choses économiques, ce qu'on attend, ne viennent finalement que si il y a une dimension politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure comme ça spontanément pour l'économie, comme d'autres présidents ont pu les faire. Mais s'il n'y a pas cette dimension politique, finalement, elle est pas si importante que ça. Et donc là, il y a une situation un peu particulière. Et puis l'autre point, c'est que je ne sais pas aujourd'hui, et les investisseurs s'interrogent sur le modèle économique de Trump. C'est-à-dire que dans ses premiers pas à la Maison-Blanche, notamment dans le discours d'investiture, il était clair que pour Trump, le monde est une économie, est un jeu à somme nulle. Ce que les Chinois gagnent, nous, Américains, nous les perdons, etc.
Il faut le récupérer.
On sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Et ce qui est terrible dans cet environnement, c'est que on ne sait pas quels sont les économistes qui conseillent la Maison Blanche. On n'a pas d'idée. D'habitude, au Council of Economic Advisors, il y avait tout un tas de gens qui étaient futurs prix Nobel. Là, il y a personne. Personne. On n'imagine pas que les gens qui soient là puissent être un jour récompensés pour leurs travaux.
Même le milliardaire Carl Icahn donc a renoncé il y a quelques jours à ses fonctions de conseiller de Trump en charge de la dérégulation financière. Et c'est pour ça que Philippe Vechter, donc la bourse se manifeste quelque part un peu bruyamment depuis deux semaines, non?
Il y a une vraie interrogation, c'est-à-dire que jusqu'à présent on pouvait avoir l'idée que qu'il allait se passer des choses. Mais on a eu quand même trois choses essentielles. La première, c'est la montée en puissance des tensions avec la Corée du Nord.
Oui.
D'un seul coup, on est rentré dans un cadre tout nouveau. Est-ce que on pourrait avoir quelque chose d'irréparable?
Une guerre nucléaire.
Voilà. Et l'analyse rationnelle suggère que on peut pas l'avoir, mais n'empêche que compte tenu du leader coréen et du leader américain, on ne sait pas très bien ce qui peut se passer. Le deuxième point, c'est que c'est ce qui s'est passé à Charlottesville, c'est-à-dire que personne ne veut plus être associé à cela. Et le troisième point, c'est que clairement, on n'a pas de politique économique. Donc dans cet environnement, quelle dynamique pour l'économie américaine? Et c'est pour ça que les chefs d'entreprise s'écartent tous, s'en vont tous des conseils. Ils ne veulent surtout pas que leur entreprise soit associée à cet élément-là. Donc il y a une situation
de leurs clients, de leurs collaborateurs,
qu'on rappelait, Edouard et vis-à-vis du reste du monde. Comment justifier ces éléments quand on est main dans la main avec Donald Trump? Compliqué.
Julien Marcy de COFAS, des déboires politiques, on le voit, des déboires politiques de Trump qui menace sa capacité à mener à bien donc ses réformes économiques. On verra tout à l'heure jusqu'où il pourra aller. La conjoncture économique, il pourra en profiter. Elle est plutôt favorable actuellement aux États-Unis, oui ou non?
Philippe Vechter l'a bien décrit, je pense. Depuis le début de l'année, en gros, il y a pas mal de signaux contradictoires en ce qui concerne l'économie américaine. Et en tant qu'économiste, quand on voit ces signaux contradictoires, souvent c'est le signe qu'un retournement de tendance est proche. Et donc, finalement, c'est pas si surprenant que ça. La reprise de l'économie américaine a été entamée bien plus tôt qu'en Europe. Et donc, aujourd'hui, on commence à voir des petits signes d'essoufflement. Rien de catastrophique, rien d'extraordinaire non plus. C'est juste la logique cyclique d'une économie. Mais c'est simplement qu'il ne faut pas s'attendre à voir le marché automobile croître de 5 à 6% par an comme un marché émergent et comme ça a été le cas au cours des 5 dernières années aux États-Unis. Le rattrapage est fait. Donc maintenant, on est sur un espèce de plateau. Après, tout n'est pas noir, encore une fois. Forcément, les secteurs d'activité comme la construction ou le secteur automobile qui sont très sensibles aux variations de taux d'intérêt vont un peu moins bien. En revanche, il y en a d'autres comme le secteur pharmaceutique, la chimie ou d'autres encore qui se portent toujours très bien. Même du côté des consommateurs, il n'y a rien d'alarmant à ce stade. La dynamique reste bonne, surtout grâce à de la désépargne, mais pas seulement. Donc on est un peu dans une situation un peu mi-figue, mi-raisin, où la situation est un peu moins bonne que ce qu'on avait l'habitude de voir au cours des dernières années, mais elle n'est pas non plus catastrophique.
Juste un mot, Cédric Fesch, qu'on lève toute ambiguïté, parce que là, on est en train de dire que les milieux d'affaires se manifestent, hein, commencent à douter un petit peu de la capacité du président américain à mener à bien ses réformes. L'opinion publique, quand même, elle ne sanctionne pas complètement les débordements de Donald Trump, notamment ses propos très ambigus sur Charlottesville.
Non, c'est vrai que Donald Trump est lâché par une grande partie des patrons et même des républicains, de la classe politique en général, mais pas l'opinion publique. Les derniers sondages qui ont été faits après les dernières déclarations de Donald Trump sur Charlottesville, donc y compris vraiment les toutes dernières sur le fait que, bon, il y avait vraiment, quand il insistait sur le fait qu'il y avait deux côtés et qu'il mettait dos à dos les racistes et les antiracistes. Après cela, on reste à la moitié des Américains qui considèrent que Donald Trump a dit ce qu'il fallait dire. Et si vous prenez cette moitié donc de gens qui sont favorables à Donald Trump, donc la moitié des Américains, c'est la moitié qui l'a élu, hein, ça n'a pas varié. Eh bien, dans cette moitié-là, vous avez 6 pro-Trump sur 10 qui disent que quoi qu'il se passe, ils continueront à soutenir Donald Trump quoi qu'il dise. Donc vous voyez, il y a quand même une base très 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 solide. Et moi, je ne pense pas, par exemple, que le départ de Steve Bannon signifie une normalisation de Donald Trump, un Trump beaucoup plus assagi. Non, parce que la ligne politique de Donald Trump, sa raison d'exister, c'est d'être en rupture et d'avoir des propos comme il les a depuis le mois de janvier, depuis qu'il est à la Maison Blanche.
Ouais. Alors justement, tiens, ça, on restait Cédric Fesch, hein, on va revenir tout de suite sur le cas de Steve Bannon, parce que c'est le cas le plus emblématique. C'est un personnage quand même haut en couleur, très décrié, donc leader de la droite la plus nationaliste, la plus protectionniste, justement, donc qui a été dégagé vendredi. Alors pourquoi, tiens, Bertrand Badi, justement, c'est un fusible qui saute, il est sacrifié quelque part sur l'autel de l'unité des républicains, du camp républicain?
D'abord, à la limite, on se demande si ce n'est pas une méthode politique nouvelle. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un ajustement à faire, on se débarrasse de quelqu'un. C'est ce qui s'est passé, en fait, depuis 6 mois aux États-Unis, depuis l'investiture de Donald Trump. Il y a 2 éléments, quand même, qui jouent en plus. C'est que Steve Bannon, mais ça, vous êtes mieux placé que moi pour dire si c'est exact, est à la marge du Parti républicain. C'est un électron libre, et c'est un électron libre qui va chercher très loin dans les eaux troubles de la droite ultra. Donc effectivement, son départ dans l'arithmétique politique américaine n'a qu'un effet de soulagement, beaucoup plus qu'un effet risquant de déséquilibrer le jeu. Il y a quand même un élément derrière tout ça qui me paraît très très important, c'est que Trump a inventé le néo-nationalisme américain, ce qui n'a rien à voir et avec le néoconservatisme de Bush, ni avec, je dirais, le néolibéralisme d'Obama. C'est une recette nouvelle qui n'a finalement, depuis la fin du 19e siècle, où il y avait des poussées populistes aux États-Unis, qui n'a pas de précédent dans l'actualité immédiate. Et on a l'impression que finalement, on essaye de doser ce néo-nationalisme dont on ne connaît pas bien la configuration. Ce que vous dites est important. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de modèle mis en place. C'est en quelque sorte des cris protestataires qui essayent de se transformer en formule gouvernementale. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau aux États-Unis, qui est aussi un peu dans la banalité du jeu politique actuel, y compris en Europe, y compris en Russie, y compris même dans beaucoup de pays du Sud, c'est-à-dire jusqu'où manipuler le nationalisme pour que ça plaise à cette opinion publique qui, du coup, devient captive. Et effectivement, je crois que c'est très important de noter que le propre du populisme, c'est de geler une part importante du corps électoral et d'assurer un matelas de toute façon.
Voilà,
exactement. Donc, tout le problème est de savoir comment convertir ce conglomérat, souvent nauséabond, faut dire les choses telles qu'elles sont, en modèle de gouvernement. Et donc, le départ de Steve Bannon, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est une façon, effectivement, de corriger le tir dans cette grosse gaffe qu'a été Charlottesville. Ce n'est pas du tout une manière de modifier cet ancrage. Et toute la question, je crois, pour notre débat est très important, c'est Que peut-on faire avec cette matrice nationaliste dès qu'il s'agit de gouverner la superpuissance que sont les États-Unis?
Philippe Vechter doit reculer. Tiens, Philippe, les milieux économiques, y compris le secrétaire au Trésor, Monsieur Mnuchin, donc soulagé donc du départ de Bannon, trop protectionniste, trop nationaliste, trop First America.
Je pense surtout que ça permet de resserrer le lien avec les républicains du Congrès, parce que il y avait vraiment un délitement des relations, surtout après Charlottesville. Ça permet de resserrer les liens et peut-être d'imaginer une politique économique. Mais comme le disait Bertrand Badie, moi je ne crois pas du tout qu'il y ait un recentrage de la politique de Trump. Il est sur son créneau, il va rester sur ce créneau, on va tous être attentifs au SMS, au tweet de la nuit, parce que on reste dans quelque chose de très particulier. Ouais. Et finalement, Steve Bannon était peut-être un élément qu'il contraignait dans sa façon de réfléchir et de pouvoir un jour dire blanc, l'autre jour dire noir, etc.
Oui, Eduardo Cuy, Trump était isolé, justement, le camp républicain soulagé de voir Bannon sorti.
Oui, absolument, mais la sortie de Bannon était prévue depuis avant Charlottesville. Elle était prévue par les chefs de la Maison Blanche, John Kelly. Sauf que avec Charlottesville, ça a été fait plus tôt que prévu. Mais sa sortie, parce que John Kelly, il essaye vraiment de mettre de l'ordre dans cette Maison Blanche qui est un véritable bordel. Donc, c'était prévu. Mais il faut faire attention parce que, par exemple, le Wall Street Journal se demande, le journal d'affaires s'il y en a aux États-Unis, est-ce qu'il est vraiment parti, Bannon? Ah. Il pose la question parce que Bannon lui-même a dit qu'il va continuer la bataille. Bon, c'est vrai, il ne sera plus à la Maison Blanche.
Il a retrouvé son job à Breitbart, donc le site
il a repris la américain.
Il va continuer le combat pour soutenir Trump, quelque part.
Je crois, ouais. Et peut-être qu'il aura toujours Trump au bout du fil de téléphone.
Cédric Fesch, toujours depuis New York pour BFM Business. C'est quoi les vraies raisons du départ de Bannon vendredi?
C'est ce que vous dites en plateau, en fait. C'est-à-dire que Donald Trump, il y a un problème Bannon qui agace toute la Maison Blanche, tout l'entourage et les républicains. Mais le vrai problème de Trump, là, c'est qu'il a une Maison Blanche qui n'est pas bien gérée depuis son élection parce que, et ça tient à la nature du mouvement de Donald Trump, ce ne sont pas des professionnels politiques. C'est d'ailleurs sa ligne politique. Il dit, moi, je ne fais pas partie de l'establishment. Nous sommes des gens du peuple, le peuple américain, et nous venons gouverner, nous prenons le pouvoir. Et donc, par définition, ils n'ont pas l'expérience. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on dit, toute proportion gardée, du parti En Marche. Ils ne sont pas des professionnels, et ils assument et ils font des erreurs. Donc, le problème de Donald Trump, c'est de professionnaliser, d'arrêter les fuites et les couacs. Je ne parle pas des siennes, je parle des siens, je parle des couacs de l'équipe. Et du coup, il a demandé à John Kelly, qui est un ancien général à la retraite, qui s'occupait de la sécurité intérieure aux États-Unis, il lui a dit, bon, maintenant, tu remets de l'ordre. Mais Kelly, donc ça, il en a besoin. Mais Kelly a dit, moi, je veux bien remettre de l'ordre, mais Scaramucci, Bannon, je ne veux pas les avoir dans les pattes. Et du coup, Trump s'est dit, bon, ok, je donne des gages, en plus, Charlottesville, c'est vrai que, bon, allez, on va faire baisser la pression. Je vire Bannon parce qu'on me le demande depuis des mois. Et la nouvelle stratégie, c'est que Bannon, à l'extérieur, peut être même peut-être plus efficace qu'à l'intérieur de la Maison-Blanche. Parce que, comme il disait vendredi, lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche, je reprends ma liberté de parole et mes mains sur mes armes. Ces armes, c'est quoi? C'est Breitbart News, c'est un média d'extrême droite qui propage beaucoup de fake news et qui a propagé surtout tout le terreau pour que Donald Trump soit élu.
Ouais, Cédric, vous avez raison. Et on voit, donc, il n'est pas le seul, Steve Bannon, puisque en effet, je parlais tout à l'heure de l'ancien directeur de la communication, Scaramucci. Il y a Sébastien Gorka, expert en terrorisme aussi, donc, qui pourrait partir, ça, évidemment, à suivre. Et puis, c'était jeudi, et c'est peut-être ça aussi qui a accéléré la chute à Wall Street, Philippe Vechter, Gary Cohn, le directeur du Conseil économique national, qui menaçait aussi de partir. C'est l'homme qui est quelque part chargé d'incarner cette réforme fiscale, donc, voulue par Trump, souhaité par les milieux d'affaires américains, c'est l'anti-Steve Bannon.
Oui, tout à fait. Mais c'est surtout celui qui peut donner une cohérence à cette politique économique. C'est-à-dire que Steve Bannon, c'est un politique pur et il avait la possibilité de raconter ce qu'il avait envie de raconter. Ce qu'on peut espérer, ce qu'on imagine bien en écoutant Cohn, c'est que il a une certaine cohérence. Alors après, on y adhère ou pas, ça c'est autre chose. Mais au moins, il y a une cohérence. S'il s'en va, tout part un petit peu à volo. Et là, ça peut être périlleux.
C'est un ancien numéro 2 de Goldman Sachs, un homme fondamentale, importante dans le dispositif actuel, Bertrand Bavy.
Absolument, et je voudrais élargir, c'est-à-dire que prenons en compte les administrations américaines. Prenons cette administration qui, dans le monde, est particulièrement regardée, qui est le département d'État. Ouais. La plupart des directions ne sont pas pourvues. On n'a jamais vu que 6 mois après l'entrée à la Maison-Blanche d'un président, l'administration reine de ce qu'est l'hégémon américain, c'est-à-dire le département d'État, a pratiquement pas de leader, de directeur à sa tête. Et le malheureux Tillerson, l'actuel secrétaire au département d'État, isolé, marginalisé, souvent démenti, c'est-à-dire que derrière tout cela, et le département d'État n'est qu'un exemple, car oui, on pourrait dire la même chose de bien d'autres secrétariats. Derrière tout cela, c'est l'existence même d'une politique publique. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, qui est en cause. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire contemporaine américaine, on se demande s'il y a encore une politique publique. Ouais. Et effectivement, que peut faire un président sans politique publique.
Oui, Julien Marcilly, chef économiste de Coface. Un mot, puis reviendra justement. Quelle suite ? Quel avenir pour les réformes fiscales, les réformes économiques, les réformes politiques aussi ? Julien ?
Non, très rapidement, je trouve, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il exaspère, est-ce qu'il inquiète ? Mais ce qui ressort de tout ce qu'on dit, c'est quand même que lui aussi semble exaspéré. Et c'est ça qui à la limite, est un peu inquiétant. C'est-à-dire que toutes ces décisions de limogeage, il semble les prendre sous contrainte. Et finalement, tous les sujets qui ont prêté à controverse cet été sont sur des sujets non économiques et qui résultent aussi du fait qu'il a passé beaucoup de temps au cours du premier semestre à essayer de mettre en œuvre ces réformes économiques sur la santé, sur la taxation. Il n'y est pas parvenu. Il semble s'être frustré. Et donc, il est intervenu sur des sujets non économiques cet été, de géopolitique, on a vu ce que ça a donné, et sur des sujets de politique intérieure. Et à chaque fois, le process semble le même, c'est-à-dire qu'il communique via un tweet. Ensuite, bon, il y a la Maison-Blanche qui réagit en disant non, c'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Et ça le frustre. Et donc, il réintervient derrière pour dire mais si, c'est ce que je voulais dire. Il en rajoute même une couche. Bon. Et donc, la question aujourd'hui, c'est
où est la cohérence après, voilà.
C'est la politique du verbe ou la politique du tweet?
Eh ben, on verra ça dans un instant, justement. Est-ce que Trump inquiète Wall Street? Est-ce qu'il ira au bout de ses réformes? Justement, oui, c'est plus dur que prévu, finalement, de faire de la politique. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho qui reviennent. Nouvelle saison.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, sur BFM Business aussi, nouvelle numérotation sur les box SFR à partir de demain, c'est plus 68, ce sera 46. Voilà, notez-le, c'est fait, c'est dit. Alors oui, est-ce que Trump inquiète Wall Street hein, la question, en effet, elle se pose depuis quelques jours. Oui, alors il y a quand même eu ces provocations sur la Corée du Nord. Très très dur, justement, oui. Ambiguïté aussi après les manifestations nazies, enfin suprémacistes blanches de Charlottesville. Bon, tout ça, ça commence un petit peu à exaspérer. Pas l'opinion publique, nous disait Cédric Fesch tout à l'heure depuis New York pour BFM Business. Les milieux d'affaires quand même, les milieux d'affaires qui se manifestent. Oui, on voit des branches l'un après l'autre, certains de ses conseillers, Steve Bannon peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il va devoir se plier comme ça au camp républicain, Edouard Occhio, vous êtes chroniqueur international, journaliste américain. Est-ce que quelque part, il est sous tutelle pour ne pas nuire au camp républicain?
Je pense qu'il est sous tutelle, mais je dirais plutôt sous tutelle de John Kelly,
qui est donc le chef de la Maison-Blanche.
C'est un poste un peu comme un premier ministre, pas tout à fait, mais c'est un poste absolument clé dans le gouvernement des États-Unis. Il y a eu des sénateurs républicains qui ont été très, très, très durs avec Trump à ce qui concerne cette histoire de Charlottesville. Donc, il devrait se plier un peu. Mais le problème, c'est qu'il est incontrôlable. Il ne peut pas se contrôler. Quoi qu'il arrive, personne ne peut le contrôler. Et moi, j'ai toujours dit, c'est son pire ennemi. Lui-même, il est son pire ennemi. Alors maintenant, à combien de temps ça peut durer, je ne sais pas. Moi, j'ai parlé avec un banquier new-yorkais de passage à Paris il y a 2 jours, qui a voté Trump, d'ailleurs, et qui m'a dit, je ne croyais pas que j'allais dire ça, mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'il démissionne et que Pence... devient le président des États-Unis. Donc, il y a des gros problèmes. Et le Parti républicain, qui n'a jamais aimé Trump, soyons clairs, jamais aimé Trump, je pense qu'à un moment donné, il sera prêt à lâcher.
Ouais, Philippe Vacher, vous êtes directeur de la recherche économique chez Natixis Asset Management. Ce qu'il faut rappeler, c'est que plus Donald Trump perd de l'influence au Congrès, plus grand est le risque, qu'on n'arrive pas à un accord sur le fameux plafond de la dette, sur l'adoption du budget 2018. Est-ce qu'il faut préciser que le budget 2018, début de l'exercice, c'est bientôt, c'est dans un gros mois, absolument. C'est le 1er octobre. Il a absolument besoin du soutien au Congrès du Parti républicain. Sinon, il n'y aura pas de budget 2018. Hein.
C'est un risque fort et pour l'instant, on n'avance pas beaucoup sur ces questions. Donc là, il y a une vraie question. Juste un instant pour revenir sur le rapprochement avec les Républicains. Je pense que un des points majeurs, c'est que dans un an à peu près, il y a les élections de mid-term.
C'est ça.
Et donc, il faut que Trump fasse allégeance aux Républicains pour conserver la
majorité. Préparer les élections de l'an prochain.
Exactement. Et donc là, il y a une dimension politique très très importante et qui l'oblige à être à naviguer un petit peu différemment. La question est de savoir combien de temps il va accepter d'être sous tutelle de la sorte, parce que c'est forcément compliqué pour lui. Et ça va être amusant à suivre dans les prochains mois.
Il faut que ces réformes, comme la réforme fiscale, soient faites cette année. Parce qu'à partir de janvier 2018, avec les élections aux États-Unis, le Congrès ne sera pas beaucoup à Washington et puis il y aura beaucoup trop de politique.
C'est-à-dire quoi? C'est un peu tard déjà pour Trump?
Mais il faut qu'il fasse d'ici la fin de l'année.
Oui, bien sûr. Ouais.
La question, c'est quand même comment elle va être financée, cette réforme. Dans quel but? Le but du jeu, quand même, de l'abrogation d'Obamacare et la mise en place de la réforme fiscale, c'était globalement de supprimer la sécurité sociale pour 20 millions de personnes pour améliorer le revenu d'un million de personnes. C'est quand même quelque chose, dans un pays où les inégalités de revenus sont absolument considérables, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Donc là, il y a une vraie problématique de qu'est-ce qu'on fait en matière de politique économique quand on avait ça comme agenda et que cet agenda ne tient plus.
Et en attendant, tiens, justement, Cédric Fesch, correspondant de BFM Business, notamment aux États-Unis, à New York, c'est quoi le programme? Il fait sa rentrée aujourd'hui, il revient à la Maison Blanche rénovée, nous dit-on, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, Cédric. Mais c'est quoi le programme de Trump dans les prochains jours, les prochaines semaines?
C'est vrai, vous avez raison, il y a quand même quelque chose qui va adoucir sa rentrée, c'est qu'il a un bureau tout neuf, la peinture est neuve, la moquette est neuve, et le bureau en bois historique a été restauré aussi. Ça, c'est pour l'anecdote. Le programme, vous le disiez, c'est de faire voter le budget 2018, c'est pas fait. De faire voter aussi ces baisses d'impôts, la fameuse réforme Obamacare, c'est-à-dire tout simplement faire appliquer ses promesses de campagne. Et puis, il va y avoir deux moments très importants. Déjà, ce soir, il a annoncé une allocution, c'est la première fois qu'il fait ça depuis sa prise de fonction, une allocution sur l'Afghanistan. On va savoir ce qu'il fait des hommes de l'armée américaine en Afghanistan. Soit il dit « je ramène les hommes aux États-Unis », ce serait cohérent avec sa doctrine, parce qu'il considère que les Américains n'ont pas vocation à être les gendarmes du monde, c'est une dépense d'argent, ils sont pas là pour ça. Ils interviennent dans le monde lorsque ça sert les États-Unis, et sinon ils gardent l'argent pour faire fonctionner le pays, et c'est vraiment America first. Ça, c'est pour ce soir, et par contre, il peut aussi décider de renvoyer des hommes supplémentaires en Afghanistan. Ça, ce serait un autre message, ce serait une façon de souder le peuple américain derrière lui, parce qu'il n'y a rien de mieux pour la popularité d'un chef d'État que d'être en guerre et d'avoir le peuple derrière lui. Et puis, l'autre rendez-vous, c'est ce mardi, il sera à Phoenix, en Arizona, pour un grand meeting. Et là, on va voir quel est le ton, justement. On va voir si le départ de Steve Bannon a changé quelque chose. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il va en profiter pour souder sa base électorale, parce que, comme vous le disiez, il y a les élections mid-term, là, dans un an. Et il y a aussi, après, la présidentielle de 2020, dans 3 ans. Et figurez-vous qu'on sait déjà qu'il est candidat.
Oui, mais Cédric Fesch, il nous disait tout de suite, Bertrand Badi, il parlait du dossier de l'Afghanistan. Bon, il y a d'autres dossiers évidemment internationaux, la Corée qui veut répondre par le feu et la colère. C'est quoi dans ce contexte la légitimité internationale de Donald Trump quand même? Parce que là on parle des réformes économiques, on parle de la scène interne. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu, avant de revenir sur les réformes fiscales, de qu'est-ce qui pèse Donald Trump?
Mais c'est tout le problème, parce que l'équation internationale de Donald Trump est terriblement compliquée. Cédric Fesch a raison de dire que Trump n'est pas un interventionniste, ce n'est pas un néoconservateur, c'est pas celui qui, comme George W. Bush, considère qu'il faut évangéliser le monde et le transformer.
Ramener la démocratie partout, oui.
Certes, mais c'est un nationaliste, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui dit « on intervient dans le monde » quand c'est nécessaire pour l'intérêt supérieur des États-Unis. Ce qui est une formule très très compliquée, pleine d'incertitudes, parce que à tout moment, au nom de cette doctrine, on peut quand même intervenir. C'est-à-dire que c'est un non-interventionnisme interventionniste d'un certain point de vue. Et on le voit bien à propos notamment de la Corée du Nord, où on est peut-être au bord d'une intervention militaire américaine comme on n'en a pas connu depuis le Vietnam.
Juge, une parenthèse. Il peut répondre à la Corée du Nord par le feu, par la colère. Je reprends ces expressions, bien sûr, hein, ces mots.
Vous savez, lorsque deux protagonistes tiennent le même langage, tout est possible. Rappelez-vous, la première crise avec la Corée du Nord, celle qui a eu lieu au printemps 2013. À l'époque, Kim Jong-un venait d'arriver au pouvoir et il a lancé son programme de missiles, ce qui a provoqué une tension internationale extrêmement forte avec des propos extraordinairement menaçants, de même nature que ceux que l'on entend aujourd'hui. Obama n'a pas répondu. Et en ne répondant pas, en trois semaines, la crise s'est dégonflée et on n'en a plus entendu parler. Là, vous avez deux protagonistes qui parlent le même langage et qui peuvent devenir prisonniers de leur langage. Quand vous annoncez tous les jours que vous allez mettre le feu partout, il y a un jour où presque mécaniquement vous êtes conduit à le faire. Voilà. Alors, il se pose à partir de là une double question. Autrefois, la question internationale que se posait le président des États-Unis, c'est « ai-je une légitimité internationale suffisante pour être le leader du monde, pour être l'hégémone ?» Et on comptait en quelque sorte ses soutiens, avec tous les problèmes rencontrés, par exemple, en 2003 par George W. Bush, qui voyait la moitié du camp occidental le lâcher. Maintenant, la question, elle est inverse. C'est, est-ce que j'ai suffisamment de soutien, moi, Trump, au niveau international, pour ne pas être complètement isolé, et donc pratiquement ne plus exister dans l'équation internationale ? Et qui, aujourd'hui, est un soutien fidèle de Donald Trump ? On a misé, effectivement, il a misé sur Theresa May, qu'il a reçue avec beaucoup d'égard, d'amitié, etc. Ça n'a pas tenu qu'un jour. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le contentieux commercial entre la Grande-Bretagne et les États-Unis était important et que les États-Unis ne compenseraient pas le Brexit pour l'économie britannique. Alors, ne parlons pas de ces relations exécrables avec Mme Merkel. Bon, il y a le 14 juillet, effectivement.
Emmanuel Macron.
Bon, mais est-ce que véritablement on peut dire que la France est, et de Macron est un soutien des États-Unis ? Ce serait quand même un peu paradoxal lorsqu'on sait que Trump a lâché la COP 21 et dans quelles conditions ? Et ça, Emmanuel Macron l'a quand même relevé.
Bien sûr.
Donc là, nous nous trouvons dans une très curieuse situation inédite pour la diplomatie américaine.
Alors, Julien Marcy, chef économiste de l'assureur-crédit Coface, ce qu'il avait promis, on va le rappeler, on en a déjà beaucoup parlé, il avait suscité un certain espoir dans les milieux économiques, une politique fondée sur trois grands axes, donc la dérégulation, les baisses d'impôts, les réformes, plus aussi la construction d'infrastructures, on en parlait tout à l'heure avec Philippe Vechter, c'est 1000 milliards. Bon, est-ce que maintenant, une fois que quelque part il est sous tutelle, une fois que les conseillers les plus problématiques ont été sortis, est-ce que la voie est libre maintenant, à votre avis, pour se concentrer sur ces questions ?
En fait, le problème de départ, c'est qu'il y a eu un malentendu le jour de son élection entre ce qu'il avait annoncé peu avant, donc justement le 8 novembre, et ce qu'il était réellement capable de faire. C'est-à-dire, et on en revient à la réforme fiscale. C'est-à-dire que les marchés ont pris pour acquis le fait que cette réforme fiscale serait adoptée. Et en fait, on s'aperçoit depuis 6 mois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, notamment sur la question du financement qui était évoqué.
On va le rappeler, le code fiscal américain qui n'a pas été modifié vraiment en profondeur depuis maintenant presque 30 ans, hein,
1986.
Ce qu'il avait prévu, le taux de l'impôt, ce qu'il avait promis, le taux de l'IS, donc 35%, a baissé à 15%. Le nombre de tranches d'imposition pour les particuliers est passé de 7 à 3. Bon. Tout ça, c'est faisable. Qu'est-ce que ça peut apporter ?
Ce qui inquiète un petit peu, c'est qu'il semble avoir raté la marche la plus facile. C'est-à-dire qu'il s'était dit, à juste titre, je vais commencer par la réforme sur la santé parce que c'est sans doute la réforme la plus facile à faire et c'est celle qui va me permettre d'unifier un peu le Parti républicain. Et à juste titre, parce que c'est vrai que c'était la réforme un peu emblématique du président Obama qui faisait consensus, et c'était plutôt rare, au sein du Parti républicain. Le problème, c'est que même cette marche qui était censée être facile, finalement, il n'a pas réussi à la grimper. Donc ça pose deux questions. Ça veut dire, un, s'il n'a pas réussi celle-là, comment il pourrait réussir une qui est plus compliquée ? Et deux, il comptait aussi sur les économies liées à la santé pour justement financer une partie de cette réforme sur la fiscalité. Donc c'est vrai que ça rend encore un peu plus la marche haute pour cette réforme sur la fiscalité.
Ouais. Impossibilité de réformer l'Obamacare. On a vu les décrets anti-immigrés retoqués une paire de fois par des juges fédéraux. changement de position sur la Chine, finalement, la Chine qui ne manipule pas sa monnaie. Très bien. Ça veut dire quoi? Il n'arrive pas, Philippe Vechter, Trump, à gouverner comme il l'entend, alors qu'il dispose d'une large majorité? C'est plus difficile, finalement, de faire de la politique?
Ben, on s'aperçoit que l'État américain, l'économie américaine, ne se manage pas comme une entreprise. Uh-huh. Et ça, c'est une leçon, quand même, qu'il faut avoir en tête. L'autre point, quand même, moi, je trouve remarquable tout ce qui tourne autour de l'Obamacare, parce que l'Obamacare, c'est 2010. C'est-à-dire que c'était il y a 7 ans. Et depuis 7 ans, les Républicains disent « c'est un truc qu'il faut réformer ». Ça coûte trop cher. Et ils arrivent au pouvoir, ils n'ont rien à proposer. C'est génial, quand même. C'est-à-dire que, qu'ont fait les Républicains pendant toute cette période? Rien. Je trouve ça assez problématique. Il y a un autre point, quand même. On évoquait tout à l'heure la dimension internationale. Il y a un point qui va être intéressant, puisque Donald Trump a saisi les corps nécessaires pour regarder la capacité de concurrence de la Chine, le fameux 301, article 301, qui dit est-ce que la Chine est une puissance qui joue les règles de la concurrence sur les innovations, sur les transferts de technologies, sur les droits intellectuels. Donc là, on a un début, parce que jusqu'à présent, on était dans l'invective. Ouais. Là, on a un premier point sur lequel il va falloir être attentif, parce que le représentant pour le commerce, s'il trouve qu'il y a des points qui ne fonctionnent pas, va pouvoir sanctionner la Chine. Donc là, il y a...
D'après des faits, voilà, cette fois.
Il y a quelque chose qui bouge peu de ce point de vue-là, et c'est préoccupant, parce que ça peut être un grain de sable dans le commerce mondial. Et dans une économie, et c'est ça qui est intéressant, une économie qui n'est plus tirée par l'économie américaine en termes d'innovation, en termes de dynamisme, la Chine joue un rôle probablement plus important.
Oui, il fait tout ça au même moment où il demande à la Chine de l'aider sur les dossiers de la Corée du Nord. C'est-à-dire que cette administration, il y a une incohérence totale. Et moi, je pense qu'en grande partie, c'est parce qu'il y a une énorme ignorance de comment ça marche. C'est tout. Hein. D'abord avec Trump, mais ensuite aussi avec les gens qui l'entourent, parce que c'est de l'amateurisme pur et dur depuis le 20 janvier.
Ouais, c'est la problématique qui s'est posée tout à l'heure, ouais. Sur il n'y a pas d'administration.
C'est ça.
On n'a pas de notes qui remontent sur des choses importantes, oui. Puisque intuitivement, on sait ce qu'il faut faire. Mais on voit ce que ça donne.
Ouais, Bertrand Badie.
Oui, le partenariat avec la Chine est une question extrêmement intéressante. La Chine avait misé sur l'élection de Donald Trump et avait soutenu très discrètement Trump plutôt que Hillary Clinton. Bon, la déception est vite venue, comme d'ailleurs en Russie, comme à peu près partout dans le monde. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur le dossier nord-coréen, la Chine a manifesté qu'elle avait fait le maximum de ce qu'elle pouvait en votant les sanctions au Conseil de sécurité, qu'elle n'ira pas plus loin. Et il y a même une formule très très importante de Pékin qui dit si les États-Unis sont attaqués par la Corée du Nord, eh bien, nous resterons neutres. Si la Corée du Nord est attaquée par les États-Unis, là, nous interviendrons. Ça veut dire que c'est fini de l'espoir, effectivement, géopolitique très naïf, de pouvoir constituer des coalitions contre ce que, à un moment, on appelait les rogue states, les États déviants. Donc, on sait très bien quelle est la position de la Chine actuellement. C'en est terminé. Des possibilités de tirer des avantages de ce partenariat.
Philippe Vechter, on se posait la question ce soir, est-ce que Trump inquiète Wall Street? Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller maintenant sur les marchés américains?
Déjà, la dynamique macro va être importante. Je pense qu'il y a une autre dimension qu'on n'a pas évoquée, qui est celle de la capacité qu'ont les États américains de gérer leur propre économie. Oui. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur la Californie,
la COP21, ouais.
Si le Obamacare est abrogé, nous on fait notre truc. Sur la COP21, il y a tout un tas d'États qui et on voit bien que du côté de la Maison Blanche, l'objectif est d'essayer de limiter la capacité des États. Donc on a une hétérogénéité assez nouvelle, me semble-t-il, au sein de la société américaine.
Y compris pour les décrets anti-immigrés. Hein,
exactement. Et qui va bien au-delà des questions purement économiques. On a un vrai problème de société. Et c'est ça le vrai trouble pour nous, quand on regarde la société américaine, c'est pas une question économique, c'est de dire l'économie américaine, la société américaine est probablement en train de changer et que le type qui est dans le Montana et celui qui est à New York n'ont finalement plus rien à se dire.
Voilà, plus rien à se dire. Merci, très bien, passionnant donc pour cette reprise donc des décodeurs de l'écho sur BFM Business. Merci à tous. Hein. Merci donc à Bertrand Badi, professeur de relations internationales à Sciences Po Paris. Philippe Vechter, directeur de la recherche économique chez Natixis Asset Management. Julien Marcilly, qui est le chef économiste de l'assureur crédit Coface. Eduardo Cué, chroniqueur international, journaliste américain. Puis un grand merci également à Cédric Fesch, qui nous accompagne également depuis New York. C'est le correspondant de BFM Business. On revient évidemment très très vite. On est là tous les soirs pour cette saison 2017-2018, qui a donc repris ce lundi.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.